بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، donc comme prévu, on va commencer بإذن الله تعالى l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi رحمه الله تعالى. L'imam al-Nawawi, il fait partie des savants de l'école de l'imam al-Shafi'i, dont les paroles sont prises en compte et dignes de considération. Qu'Allah leur fasse à tous deux miséricorde. Et il est de ceux qui ont écrit le plus d'ouvrages. En effet, il a écrit des ouvrages dans différents domaines, comme dans le domaine du hadith et de ses sciences, ainsi que dans le domaine de la langue arabe et autres. Et le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il a dit qu'il fait en réalité partie des gens les plus savants. Que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, fait en réalité partie des gens les plus savants. Et qu'il apparaît, wallahu a'lam, et Allah sait mieux, qu'il fait partie des gens les plus sincères. Car ces ouvrages, ils se sont propagés dans l'ensemble du monde islamique. Et il n'y a presque pas de mosquée dans laquelle tu ne trouveras pas son livre, Riyad al-Salihin, ou dans laquelle ce livre n'est pas lu. Et ces livres, ils sont connus et répandus à travers le monde, et ceci est une preuve de la conformité de son intention, car les gens ont accepté ces livres. Et ceci est le sens de la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, au sujet de l'imam al-Nawawi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse à tous deux miséricorde. Et on pourrait ajouter, wallahu a'lam, que le Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala lui-même, il fait aussi partie des gens les plus sincères dans la propagation de la science religieuse. En effet, le Cheikh rahimahullah, il a passé une grande partie de sa vie à enseigner et il a écrit peu de livres. Malgré cela, tu ne rentres pas dans une mektaba, tu ne rentres pas dans une librairie sans trouver un certain nombre de ses ouvrages qui sont pour la plupart des retranscriptions de ses cours. Et ces livres, ils sont devenus des références pour les gens de l'islam, et ceux dans le monde entier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, et l'élève en degré au paradis. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a donc écrit et composé de nombreux ouvrages, et parmi eux ce livre que nous avons entre les mains, Al-Arba'un al-Nawawiyya, les 40 hadiths d'Al-Nawawi. Et ce livre, il est en réalité composé de 42 hadiths. Alors pourquoi est-il appelé les 40 hadiths? Car les Arabes en général, lorsqu'ils parlent, ils arrondissent les nombres. Ils disent 40, même s'il y en a un ou deux en plus, ou encore un ou deux en moins. C'est pour cela que ce livre est appelé ainsi. Et cet ouvrage, il se distingue par le fait que son auteur, rahimahullah, il a sélectionné des hadiths sur lesquels reposent des principes fondamentaux de l'islam, comme on le verra tout au long de notre étude, incha'Allah ta'ala. Il convient donc aux musulmans, et plus particulièrement à celui désirant emprunter le chemin de la recherche de la science, de mémoriser ces hadiths, de mémoriser ces hadiths. C'est pour cela que je demande à tous mes frères présents ayant les capacités de mémoriser après chaque cours le hadith étudié, de mémoriser après chaque cours le hadith étudié. Et pour cela, je vous conseille de vous mettre en groupe, deux par deux, et que vous veniez en avance, un peu avant l'heure du cours, et que vous vous écoutiez mutuellement afin de vérifier si vous avez bien appris le hadith. Ensuite, je demanderai à mon frère Mehdi, wafakahullah, de me faire la liste des frères qui mémorisent le hadith. Et avant chaque cours, incha'Allah ta'ala, on interrogera un ou deux frères sur le hadith, bi'idhnillahi ta'ala. On va donc commencer aujourd'hui, incha'Allah, par l'étude du premier hadith. Par l'étude du premier hadith. An Amir al-Mu'minin, أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Le prince des croyants Abi Hafs, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dire, les œuvres ne valent que par les intentions. Les œuvres ne valent que par les intentions. Et tout homme aura ce dont il a eu l'intention. Celui qui émigre vers Allah et son messager, alors sa hijra est vers Allah et son messager. Et celui dont la hijra est pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite acquérir, ou pour une femme qu'il souhaite épouser, alors sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est donc par ce hadith immense que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé. Et de même que l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, a introduit son recueil de hadith authentique par ce hadith. Et ce, car celui-ci rappelle que toute œuvre par laquelle on ne recherche pas le visage d'Allah, alors c'est une œuvre vaine. Cela rappelle ainsi à l'étudiant qu'il est indispensable pour lui de corriger son intention dans sa recherche de la science. Car tu ne seras rétribué dans ta recherche de la science que selon ce pourquoi tu as œuvré, que selon ce pourquoi tu as recherché la science. Et ce hadith, il est un des hadiths sur lesquels repose la religion. On rapporte d'ailleurs de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit « Ce hadith est le tiers de la science. Ce hadith est le tiers de la science. » Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit « Les fondements de l'islam reposent sur trois hadiths. Les fondements de l'islam reposent sur trois hadiths. Le hadith de Omar, les œuvres ne valent que par les intentions. Le hadith de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie. Et le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiallahu ta'ala anhu, le licite est évident et l'illicite est évident. Et ces trois hadiths, ils se trouvent dans cet ouvrage que nous allons étudier, incha'Allah ta'ala. Ce hadith, il est donc rapporté par le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, celui qui fut désigné par Abu Bakr al-Siddiq en tant que successeur, et ceci fait partie des bonnes actions de Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, qui a fait le meilleur des choix en désignant Omar en tant que calife après lui. Et Omar, radiallahu ta'ala anhu, est le premier calife à avoir été surnommé le prince des croyants, Amirul Mu'minin. Il est le premier calife à avoir été surnommé ainsi. Il a dit donc, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci prouve qu'il a pris ce hadith directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans intermédiaire. Car il a dit qu'il l'a entendu. Il a dit qu'il l'avait entendu. Et ce qui est étonnant, c'est que ce hadith, il n'est rapporté que par Omar, radiallahu ta'ala anhu, malgré son importance. Et plus étonnant encore, nul n'a rapporté ce hadith de Omar en dehors de Alqama ibn Waqqaf al-Layfi, rahimahullah ta'ala. Et nul ne l'a rapporté de lui en dehors de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, rahimahullah ta'ala. Et nul ne l'a rapporté de lui en dehors de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Et chaque rapporteur est donc le seul à rapporter ce hadith. Chaque rapporteur est donc le seul à rapporter ce hadith, et ce jusqu'à Yahya ibn Sa'id al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Puis après cela, de nombreux imams du hadith l'ont rapporté de lui, et parmi eux, Malik al-Awza'i ibn al-Mubarak, les deux Sofiane, al-Thawri ibn Uyayna, ainsi qu'al-Layth ibn Sa'ad, et d'autres encore, rahmatullahi alayhim jami'a. Et les savants, ils sont unanimes quant à l'authenticité de ce hadith. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a même introduit ce recueil authentique par celui-ci, comme on l'a dit précédemment. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les œuvres ne valent que par les intentions. Les œuvres ne valent que par les intentions. Les œuvres ici englobent les œuvres du cœur ainsi que les œuvres de la langue et du corps. Toutes ces œuvres ne valent, c'est-à-dire qu'elles ne sont valides que par les intentions. » Elles ne sont valides que par les intentions. Les œuvres du cœur sont le tawakkul, la confiance en Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah et ce qui ressemble à cela. Les œuvres de la langue sont tout ce qu'elle prononce, comme l'évocation d'Allah, l'invocation, la récitation du Coran et autres encore. Et les œuvres du corps sont les œuvres des mains et des pieds, ainsi de suite. Et toutes ces œuvres, elles ne valent que par les intentions. Toutes ces œuvres, elles ne valent que par ton intention. Et l'intention, c'est la volonté d'accomplir l'adoration. La volonté d'accomplir l'adoration pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle se trouve dans le cœur et elle n'est en aucun cas prononcée par la langue. Et cette intention, elle a pour but de distinguer les actes ordinaires des adorations ainsi que de distinguer les adorations entre elles. L'intention, elle a pour but de distinguer entre les actes que tu accomplis de façon habituelle et ordinaire et les actes que tu accomplis en tant qu'adoration. Et elle a également pour but de distinguer entre les adorations entre elles. On distingue donc les actes ordinaires des adorations par l'intention. Par exemple, un homme, il mange la nourriture seulement par désir, et un autre, il la mange pour se maintenir en vie, dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se soumettre à son ordre. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, wa kulu wa shrabu wa la tusrifu, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès. L'œuvre du premier, c'est donc un acte ordinaire, tandis que celle du second est une adoration. Et ce qui distingue entre les deux, c'est quoi? C'est leur intention. Ce qui distingue entre les deux, c'est leur intention. Un autre exemple. Un homme prend une douche pour se rafraîchir, et un autre pour se purifier de la janaba. Le premier est un acte ordinaire, et le second est une adoration. C'est pour cela que si un homme est en état d'impureté, puis qu'il plonge dans la mer pour se rafraîchir, et qu'il prie ensuite, alors ceci n'est pas valide, car l'intention est indispensable. Il s'est baigné pour se rafraîchir, et il n'a pas visé l'adoration. Mais s'il se baigne pour se purifier, alors dans ce cas-là, c'est valide et accepté de lui, inshallah ta'ala. C'est à ce sujet que les gens de science ont dit, les adorations des insouciants sont des habitudes. Les adorations des insouciants sont des habitudes, c'est-à-dire des actes ordinaires. Et les habitudes des gens éveillés, des gens lucides, ce sont des adorations. Et les habitudes des gens éveillés sont des adorations. Les adorations des gens insouciants sont des habitudes, c'est-à-dire que l'un d'entre eux se lève, il fait les ablutions, il prie et il continue sa routine quotidienne de façon habituelle. Contrairement aux gens éveillés, qui lorsqu'ils accomplissent les ablutions, ils se rappellent qu'ils font cela pour se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les habitudes des gens éveillés sont des adorations. Lorsqu'il dort le soir, il dort afin d'être en forme pour pouvoir se lever au fajr. Lorsqu'il fait ses courses, il achète nourriture et boissons afin de nourrir sa famille et les mettre à l'abri du besoin. Lorsqu'il met un vêtement neuf, c'est pour montrer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Lorsqu'il mange, c'est pour avoir la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Ses habitudes, qui sont à la base des actes ordinaires, sont pour lui des adorations, et ceci se distingue par quoi? Par ses intentions. Ceci ne se distingue que par ses intentions. L'intention, elle permet aussi de distinguer les adorations les unes des autres. Par exemple, un homme accomplit 2 unités de prière surérogatoire, et un autre prie salat al-fajr. Il prie la prière de l'aube. Ces deux prières, elles se distinguent par quoi? Par l'intention. L'une est surérogatoire et l'autre est obligatoire. Un autre exemple. Demain, nous sommes lundi. Il se peut que certains jeûnent car il est recommandé de jeûner le lundi. Et d'autres pour rattraper un jour manqué durant Ramadan ou autre encore. Et ce qui distingue entre eux, c'est quoi? C'est leur intention. L'intention, elle sert donc à distinguer les adorations entre elles ainsi qu'à les distinguer des actes ordinaires. Et il est important de savoir que cette intention, elle se trouve dans le cœur. Et elle ne doit en aucun cas être prononcée. Car tu voues ton adoration à qui? À celui qui a pleine connaissance de ce que cachent les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs de ses serviteurs. Il n'a donc pas besoin que tu l'informes de ce qu'il y a dans ton cœur. Il a pleine connaissance de ton intention et de ce que renferme ton cœur. De plus, il n'est rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qu'il prononçait l'intention. C'est pour cela que prononcer l'intention, que ce soit à voix haute ou à voix basse, est une innovation qui doit être interdite. C'est une innovation qui doit être interdite et blâmée. En effet, si ceci faisait partie de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait mis en pratique et il l'aurait expliqué à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et il y a une question à ce sujet. Lorsque le pèlerin part pour la Umrah ou le Hajj, ne prononce-t-il pas l'intention lorsqu'il dit par exemple labbaik allahumma umrah? Labbaik allahumma umrah. La réponse est que non. Ceci n'est pas l'intention qui est prononcée, mais c'est plutôt un des rituels de la sacralisation. Et des savants ont expliqué que la talbiya est semblable au takbir de sacralisation pour la prière, takbiratul ihram. C'est-à-dire que si tu ne prononces pas la talbiya, qui n'est pas l'intention mais qui diffère de celle-ci, alors tu n'es pas entré en sacralisation. De la même manière que si tu ne dis pas Allahu Akbar, que tu ne dis pas takbiratul ihram, le takbir de sacralisation, alors tu n'es pas entré en prière, mais ceci n'est pas l'intention qui est prononcée. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, et tout homme aura ce dont il a eu l'intention. Ceci concerne ce qui motive ton action, c'est-à-dire que tu seras récompensé en fonction de la raison qui a motivé ton acte et ce dont tu as eu l'attention. Et les gens diffèrent grandement à ce sujet. Il se peut que deux hommes prient côte à côte, mais qu'il y ait entre eux une différence immense en termes de récompense. Car l'un d'entre eux est sincère et l'autre non, est pris par ostentation. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs sincères. Il se peut que deux hommes étudient la science religieuse ensemble, mais que l'un d'entre eux soit proche du paradis, tandis que l'autre, il en est loin. Pourtant, ils étudient le même livre, avec le même professeur, et au même endroit, et en même temps. Cependant, l'un d'entre eux étudie seulement afin de devenir un imam, car, par exemple, le travail d'imam est bien payé, tandis que l'autre, il étudie pour devenir savant et enseigner le bien à la communauté. Et il n'y a pas de doute que la différence entre ces deux est immense. Il est donc important de corriger et réformer son intention en toute chose. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, « Quiconque apprend une science par laquelle on recherche le visage d'Allah et ne l'apprend que pour atteindre un bien de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis. » Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, as-salamata wa al-afiyah. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, ainsi qu'Abu Daoud et Ibn Majah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ensuite donné un exemple pour clarifier ce fondement immense qu'il nous a enseigné. Et il a choisi pour cela l'exemple du muhajir, celui qui émigre. Et il a dit, celui qui émigre vers Allah et son messager, alors sa hijra est vers Allah et son messager. La hijra, dans la langue arabe, elle provient du muhajir, qui signifie le délaissement. Et dans la législation, elle désigne le fait de délaisser une terre de mécréance pour une terre d'islam. Il a donc donné cet exemple immense de la hijra vers Allah et son messager, à l'exemple de ceux qui ont émigré de Mecca à Médine avant la conquête de Mecca. Vers Allah, c'est-à-dire en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et le secours de sa religion. Et vers son messager, c'est-à-dire afin de lui tenir compagnie, de mettre en pratique sa sunna, de la défendre et d'y appeler, ainsi que pour soutenir sa religion. Celui partant avec cette bonne intention, alors sa hijra, elle est vers Allah et son messager. Et Allah a dit dans le hadith al-Qudsi, selon la traduction des sens rapprochés, « Quiconque se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. » Et ce hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi subhanahu wa ta'ala alayhima. Ainsi, si le serviteur recherche le visage d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue par encore mieux que ce qu'il a œuvré, Et on peut ici se poser la question suivante. Est-il possible d'émigrer vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort? La réponse est qu'il n'est pas possible d'émigrer vers sa personne car il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est toujours possible d'émigrer vers sa sunna et sa législation comme le fait de quitter un pays pour secourir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mettre en pratique. Et la hijra vers Allah subhanahu wa ta'ala quant à elle, elle est constante. Quant à la hijra vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle se faisait vers sa personne et sa législation de son vivant, mais après sa mort, elle est seulement vers sa législation sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est semblable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Renvoyez-le à Allah, c'est-à-dire à son livre, au Coran, et au messager, c'est-à-dire à sa personne durant son vivant et à sa sunna après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui dont la hijra est pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite acquérir, ou pour une femme qu'il souhaite épouser, alors sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. C'est-à-dire que la rétribution de son œuvre, elle correspond à son intention. S'il émigre dans le but d'un commerce, il entend qu'il y a dans tel pays telle ou telle chose dont le commerce est profitable et rapporte beaucoup d'argent. Sa hijra, elle est donc que pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite acquérir. Et il n'aura que ce qu'il souhaite acquérir. Si Allah veut qu'il l'obtienne. Car si Allah veut, il n'obtiendra rien de cela. Et il n'obtiendra que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Un autre émigre pour épouser une femme, il l'a par exemple demandée en mariage et elle lui a dit « Je n'accepte de me marier avec toi qu'à condition que tu viennes vivre dans mon pays. » Alors sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Vous voyez donc, mes frères, l'importance de l'intention. L'importance de l'intention est de l'avouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala afin de profiter de la bonne rétribution de nos œuvres, incha'Allahu ta'ala, et méditer sur sa parole dans la première phrase. Celui qui émigre vers Allah et son messager, alors sa hijra est vers Allah et son messager. Il a répété et confirmé que sa hijra est vers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, afin d'attirer l'attention sur le mérite de cette œuvre avec cette bonne intention. Et dans la deuxième phrase, qu'est-ce qu'il a dit? Et celui dont la hijra est pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite acquérir, ou pour une femme qu'il souhaite épouser, alors sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Vers ce pourquoi il a émigré. Ici, il n'a pas répété la motivation de sa hijra, car c'est une motivation méprisable, qui n'est même pas digne d'être répétée. C'est pour cela qu'il n'a pas dit « sa hijra est vers un bien de ce bas monde ou vers une femme », mais il a simplement dit « alors sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré ». Et celui-ci, il a certes perdu la rétribution immense de la hijra, à cause de quoi ? À cause de son intention. À cause de son intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement ce que renferment les cœurs. Enfin, ce hadith est rapporté par les deux grands imams des savants du hadith, Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail, al-Bukhari, et Muslim ibn al-Hajjaj, al-Nisaburi, rahimahum Allah ta'ala, et ce dans leur recueil de hadiths authentiques, qui sont les recueils de hadiths les plus authentiques. Et le sahih de l'imam al-Bukhari est encore plus authentique que celui de l'imam Muslim. Le sahih de l'imam al-Bukhari est encore plus authentique que celui de l'imam Muslim. Et si les deux sont en accord, alors il n'y a pas de doute que ce hadith est une science certaine sur laquelle il n'y a aucun doute, car il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ce bref commentaire du hadith, nous allons maintenant énumérer certains bénéfices tirés de ce hadith. Premièrement, l'importance de l'intention. L'importance de l'intention, qui est une des bases de toute œuvre et sur laquelle repose sa validité ou sa corruption. En effet, certains savants ont dit que l'islam est basé sur deux hadiths. Que l'islam est basé sur deux hadiths. Le hadith de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, que nous venons de voir, et le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, quiconque fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, elle est alors rejetée. Le hadith de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, est la base des œuvres du cœur, tandis que le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, est la base des œuvres du corps. À titre d'exemple, si un homme très sincère ne recherche que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il commet de nombreuses innovations. Si on observe son intention, on voit que son intention est bonne. Mais si on observe son œuvre, on voit que c'est une œuvre mauvaise et rejetée, car elle n'est pas conforme à la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre homme prie de la meilleure manière, en accomplissant chaque geste et chaque mouvement comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il fait cela pourquoi ? Par ostentation. Son œuvre est donc dépourvue de sincérité et elle est par conséquent quoi ? Mauvaise et rejetée. On déduit donc de cela que si l'intention est corrompue, l'œuvre est forcément corrompue. Si l'intention est corrompue, l'œuvre est forcément corrompue. Mais si l'intention est bonne, l'œuvre ne l'est pas nécessairement. Car elle doit aussi remplir la seconde condition qui est quoi ? La conformité à la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure œuvre, c'est donc celle qui est la plus sincère et la plus conforme. Si l'œuvre est sincère mais qu'elle n'est pas conforme, elle n'est pas acceptée. Et si elle est conforme mais qu'elle n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée non plus. Et l'œuvre sincère, c'est celle qui est exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'œuvre conforme, c'est celle qui est sur la sunnah. Ceci est ce qui est rapporté de certains salafs comme Al-Fudayl, rahmatullahi subhanahu wa ta'ala alayhi. La récompense des œuvres, elle ne repose donc pas sur le simple fait de les accomplir. Elle ne repose pas sur le simple fait que tu accomplisses cette œuvre. Mais elle repose sur ces deux bases qui sont la sincérité et la conformité. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que l'intention est une condition pour toute adoration. Le fait que l'intention est une condition pour toute adoration, comme la prière, le jeûne et autres, car les actes ne valent que par les intentions, car les actes ne valent que par les intentions. Cependant, il est important de préciser qu'il est impossible d'accomplir ces actes sans intention. Qu'il est impossible d'accomplir ces actes sans intention. Car l'intention, c'est la ferme volonté d'accomplir une chose. Lorsque tu te diriges vers la salle de bain à l'heure de la prière et que tu prends de l'eau pour faire les ablutions, c'est que tu as l'intention de faire les ablutions. Ensuite, tu t'habilles, puis tu sors et te diriges vers la mosquée. C'est que tu as l'intention de faire quoi ? Tu as l'intention de prier. Si tu n'avais pas ces intentions, tu ne te serais même pas levé et tes actes, ils sont forcément accompagnés d'intentions. Sauf pour celui qui a perdu la raison et qui ne sait plus ce qu'il fait. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Mais la personne saine est la personne douée de raison. Elle ne peut pas accomplir ses actes sans intention. Ceci ferme donc la porte à ceux qui sont victimes d'insufflation du diable, qui leur fait parfois recommencer leurs prières, recommencer leurs ablutions ou autres, sous prétexte qu'ils n'auraient pas eu l'intention. Ceci est tout simplement impossible. C'est pour cela que des gens de science ont dit qu'il est impossible à l'homme d'accomplir un acte sans intention, sauf s'il n'est pas doué de raison ou qu'il a perdu la raison. Le musulman, il doit donc fermer la porte aux insufflations du diable, les rejeter et ne pas s'y adonner. Troisièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il est obligatoire de distinguer les adorations entre elles. Et cette distinction, elle n'a lieu que par l'intention. Comme on l'a vu avec l'exemple du jeûne du lundi ou encore du lavage rituel. Quatrièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que l'intention est de deux sortes. Il y a l'intention de l'acte, c'est-à-dire l'acte que tu vas accomplir. Et c'est celle-ci qui est forcément présente. Et c'est de celle-ci dont il est sujet dans les chapitres de la jurisprudence, et c'est celle-ci qui est une condition de validité des œuvres. Le deuxième type d'intention, la deuxième sorte, c'est l'intention qui est la motivation de l'action. Et c'est de celle-ci dont il est sujet dans les livres de quoi ? Dans les livres de croyance, lorsqu'on parle de la sincérité. La première intention, elle se trouve dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres ne valent que par les intentions. Et la deuxième, elle se trouve dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, et tout homme aura ce dont il a eu l'intention. Le cinquième bénéfice de ce hadith est que l'homme n'obtient de son œuvre que ce dont il a eu l'intention. Si l'œuvre, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son œuvre sera valide et il sera récompensé en bien pour cela, bi'idhnillahi ta'ala. Par contre, si l'œuvre recherchant un bien de ce bas monde, alors il n'aura que ce dont il a eu l'intention, mais seulement si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui accorder. En effet, écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala « Man kana yuridu al-ajila, ajjalna lahu fiha » Quiconque désire la vie immédiate, c'est-à-dire la vie de ce bas monde, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donc informé dans ce verset que ceux qui œuvrent, recherchant ce bas monde, vil et éphémère, au détriment de l'au-delà qui est éternel, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera alors ce qu'il recherche, mais seulement si Allah le veut. Nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. C'est-à-dire qu'il se peut qu'en plus de perdre la récompense de l'au-delà, il n'obtienne même pas ce qu'il recherche dans ce bas monde et qu'il fasse alors partie des perdants dans les deux demeures. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et ceci nous indique le sixième bénéfice de ce hadith qui est l'obligation de vouer ses œuvres sincèrement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un grand combat que doit mener le serviteur contre sa propre personne. Il doit la contraindre à n'œuvrer que pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour autre que lui. Et je trouve bon ici de lire une parole de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abba Boutayn rahimahullahu ta'ala que j'ai déjà cité dans d'autres cours mais qui est très bénéfique et lié à ce bénéfice que l'on vient de citer. Il a dit rahimahullah: l'épreuve du livre et de la sunna, ainsi que l'unanimité de la communauté, démontre certes l'exigence de la sincérité dans les paroles et les actes religieux, et qu'Allah n'accepte de ceci que ce qui lui est voué exclusivement et par lesquels son visage est recherché. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs prodiguaient des efforts immenses pour corriger leurs intentions. Et ils voyaient que la sincérité est la chose la plus importante et la plus difficile pour l'âme, car ils avaient connaissance d'Allah et de ce qui incombe à son égard, ainsi que des vices des œuvres et de leurs défauts. Ils ne se souciaient pas de l'œuvre en elle-même. Ils ne se souciaient pas de l'œuvre en elle-même, car elle était simple pour eux. Mais ils se souciaient du fait que l'œuvre soit saine et prémunie de tout vice, pouvant annuler sa récompense ou la diminuer. Il nous dit donc que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils ne se souciaient pas de l'œuvre en elle-même. Ce n'était pas un problème pour eux. Pourquoi ? Car pour eux, il était simple d'œuvrer. Il était simple d'œuvrer et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils se souciaient de quoi ? Ils se souciaient que l'œuvre soit saine et prémunie de tout vice, pouvant annuler sa récompense ou en diminuer la récompense. Ensuite, rahimahullah, il a cité quelques paroles des pieux prédécesseurs et il a dit, rahimahullah, l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, l'affaire de l'intention est difficile. L'affaire de l'intention est difficile. Sofiane Thawri, rahimahullah ta'ala, a dit, je n'ai pas soigné une chose plus difficile pour moi que mon intention, car elle se retourne contre moi. Car elle se retourne contre moi. Yusuf ibn Asbat, rahimahullah ta'ala, a dit, purifier l'intention de sa corruption est plus difficile pour ceux qui œuvrent que les longs efforts. Purifier l'intention de sa corruption est plus difficile pour ceux qui œuvrent que les longs efforts. Sahel ibn Abdillah al-Tustari, rahimahullah ta'ala, a dit, il n'y a rien de plus difficile pour l'âme. Il n'y a rien de plus difficile pour l'âme que la sincérité, car elle n'a aucune part de celle-ci, c'est-à-dire l'âme. Elle n'a aucune part de la sincérité. Yusuf ibn al-Hussein, rahimahullah ta'ala, a dit, la chose la plus précieuse de ce bas monde, la chose la plus précieuse de ce bas monde est la sincérité. Et nombreux sont les efforts que je prodigue pour délivrer mon cœur de l'ostentation, mais c'est comme si elle repoussait sous une autre couleur. Mais c'est comme si elle repoussait sous une autre couleur. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire le cheikh Abdullah ibn Abdurrahman, Abba Boutain, il est donc obligatoire pour celui qui est franc envers lui-même d'accorder une grande importance au fait de corriger son intention et de la délivrer de tout vice. L'importance qu'il accorde à cela doit être au-dessus de toute chose, car les œuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Ceci est la fin de la citation de la parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala. Le septième bénéfice que l'on tire de ce hadith est le mérite de la hijra. Le mérite de la hijra, c'est-à-dire de l'émigration d'un pays de shirk, d'un pays de polythéisme, à un pays d'islam. Et quel est le jugement de la hijra ? Quel est le jugement de la hijra ? Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit dans son ouvrage bien connu, Les Trois Fondements, et la hijra d'une terre de polythéisme à une terre d'islam est une obligation pour cette communauté, et elle le restera jusqu'à la venue de l'heure. Et elle le restera jusqu'à la venue de l'heure. Puis il a ensuite cité comme preuve le verset de Sourate An-Nisa, ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra ne cessera pas tant que le repentir ne cessera, et le repentir ne cessera pas tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. Tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. La hijra, c'est donc une obligation pour tout musulman ayant les capacités et vivant en terre de mécréance, incapable d'extérioriser sa religion. Et extérioriser sa religion, cela ne se limite pas à la prière ou au jeûne, comme beaucoup de personnes le pensent. Ils pensent que parce qu'il prie, il jeûne, il va à la mosquée, il met son kamis, alors il peut extérioriser sa religion. Mais ceci ne suffit pas. Il ne suffit pas de pouvoir mettre un kamis ou un djilbab en toute sécurité pour extérioriser sa religion. Alors que dire d'un pays où même ceci devient difficile pour les musulmans ? Où même ceci devient difficile pour les musulmans ? Aujourd'hui, nombre de musulmans vivant en terre de mécréance ne cherchent même plus à se distinguer des mécréants dans leur tenue vestimentaire. Ils cherchent à s'habiller de façon à ne pas se distinguer. Ceci est une des preuves les plus claires que tu ne peux pas extérioriser ta religion. Nombre de musulmans n'ont également pas compris ce principe d'extériorisation de la religion. Les savants ont mentionné comme principe qui doivent être accomplis pour extérioriser sa religion le fait d'extérioriser al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. L'alliance aux musulmans et le désaveu des mécréants. Également, certains savants ont mentionné comme signe d'extériorisation de la religion, comme le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, que les musulmans aient des cimetières dans lesquels ils puissent enterrer leurs morts de façon conforme à la législation islamique. Et où cela se trouve-t-il? Où cela se trouve-t-il en dehors des pays musulmans? On voit donc qu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile pour le musulman d'extérioriser clairement sa religion en terre de mécréance. C'est pour cela qu'il lui revient et qu'il lui incombe d'accomplir la hijra, l'émigration vers les terres d'islam, afin de compléter sa religion bi'idhnillahi ta'ala. Le huitième bénéfice que l'on tire de ce hadith est l'obligation d'être sincère dans la hijra. L'obligation d'être sincère dans la hijra, comme dans tout autre acte d'adoration. Car, comme on l'a dit, la sincérité est une des conditions de la validité des œuvres. Et cette sincérité, comment se manifeste-t-elle? Comment se manifeste-t-elle? Elle se manifeste par la volonté apparente du serviteur d'accomplir cette noble adoration. Par la volonté apparente du serviteur d'accomplir cette noble adoration. Il ne suffit pas qu'il dise « J'accomplirai la hijra, inshallah ». Mais il doit œuvrer pour cela. Il doit œuvrer pour cela, accomplir des causes qui lui faciliteront d'accomplir cette émigration en terre d'islam et ainsi compléter sa religion bi'idhnillahi ta'ala. Le neuvième bénéfice que l'on tire de ce hadith est le mépris de ce bas monde et de ses délices éphémères. Le mépris de ce bas monde et de ses délices éphémères. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Et comme on l'a vu, ceci est une façon de mépriser la motivation qui l'a poussé à accomplir sa hijra. Ceci sont donc quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce noble hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les bénéfices sont encore bien nombreux. On se contentera de mentionner cela. Wa sallallahu wa sallim wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا